Le 6-9. Listen
anywhere. Huawei Doba.
Wahdahum Souria.
Sur France Inter.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour.
Vous revenez, Pierre, ce matin sur les déclarations d'Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine hier soir.
On pourrait baptiser la séquence « Les 10 jours qui ont radicalisé la politique de la France vis-à-vis de la Russie ». Elle a été ouverte par la déclaration d'Emmanuel Macron, n'excluant pas l'envoi de personnel militaire en Ukraine, et s'achève provisoirement, aujourd'hui, avec un important sommet à Berlin entre la France, l'Allemagne et la Pologne. L'interview télévisée du président hier soir cherchait à envoyer quelques messages et à clarifier des positions qui ont pu surprendre. Il faut dire que ceux qui en étaient restés à sa posture du début de guerre, selon laquelle il ne fallait pas humilier la Russie, ont pu être déconcertés. Depuis, Emmanuel Macron a déjà recentré son discours et cessé d'attendre quoi que ce soit de Vladimir Poutine. Et surtout, il a fait clairement le choix de l'Ukraine. Le tournant est survenu à Bratislava en juin l'an dernier avec un discours plus dur. Un nouveau cap a été franchi avec ses accents martiaux qui ont, dans un premier temps, créé plus de confusion mais qui pourrait se révéler mobilisateur.
Mais qu'a voulu faire le président ?
Le message d'Emmanuel Macron aux Français, aux Européens, mais aussi à Poutine, est double. D'une part, il affirme désormais comme un postulat que la Russie ne doit pas gagner. Il l'a encore répété hier soir, et il l'explique par le danger qu'une telle victoire ferait courir à tout le monde, Français compris, avec cette phrase « Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait, nous n'aurons plus de sécurité ». Les cyberattaques russes contre la France ne seraient alors qu'un avant-goût. Le deuxième message en découle. Face aux difficultés des Ukrainiens et au risque de lâchage américain, l'Europe doit faire tout ce qu'elle peut, sans limite, pour empêcher la Russie de gagner. Sans limite, c'est le propre de l'ambiguïté que veut instaurer Emmanuel Macron et qui a déconcerté. Ça ne signifie pas l'envoi de troupes combattantes, mais l'ambiguïté consiste à ne pas l'exclure. C'est ce qu'une partie des autres Européens, le chancelier Scholz en tête, ont trouvé difficile à soutenir, même si plusieurs depuis s'y sont ralliés.
Et le sommet de Berlin aujourd'hui va-t-il réconcilier ses positions ?
Alors ce sommet est décisif car les trois pays qui forment le triangle de Weimar, la France, l'Allemagne et la Pologne, ont besoin les uns des autres. Et s'ils s'entendent, ils peuvent changer la donne. La Pologne est la puissance européenne la plus exposée et elle a porté ses dépenses militaires à un niveau record, 4% du PIB, deux fois la France en pourcentage. L'Allemagne aide beaucoup l'Ukraine financièrement, mais apparaît toujours hésitante, sans doute un trait de caractère d'Olaf Scholz. Attaqué par l'opposition conservatrice sur ses hésitations, le chancelier a besoin de se montrer en position de leadership. La France et la Pologne peuvent l'y aider. La France, enfin, est dans son rôle habituel d'agitateur d'idées, mais ne peut avancer seule. Le triangle de Weimar est un bon format pour tester les prochaines étapes, par exemple, un emprunt européen pour la défense. Tout le monde a intérêt à redonner l'image d'une unité européenne qui a semblé vaciller. Les prochains mois seront rudes en Ukraine et dans le monde, et l'Europe joue sa crédibilité. Poutine regarde.
Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.